On va parler à présent des élections allemandes, avec un retour sur un scrutin très scruté pour le coup. La CDU en tête, échec de la SPD et montée spectaculaire de l'extrême droite. On analyse les résultats des élections législatives anticipées en Allemagne avec Isabelle Guinaudot, elle est chercheuse au CNRS et au centre Marc Bloch de Berlin. Elle est au micro de Lucie Gilson.
Bonjour Isabelle Guinaudot.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au CNRS au centre Marc Bloch de Berlin et donc vous habitez donc la capitale allemande en Allemagne et vous êtes spécialiste des campagnes électorales. Alors hier, la CDU a remporté les élections législatives anticipées et sans surprise, il semblerait que ce soit Friedrich Merz qui va devenir le prochain chancelier allemand. Alors ma première question, ce résultat était-il attendu ?
Oui, on s'attendait depuis longtemps à ce que la CDU arrive en tête. C'était des élections anticipées qui ont été déclenchées par la chute de la coalition sortante et on s'attendait à ce qu'il y ait une sanction des partis qui étaient au gouvernement auparavant, c'est-à-dire les sociaux-démocrates, les libéraux et les écologistes. Et on savait depuis longtemps dans les intentions de vote qui sont mesurées très régulièrement que la CDU arriverait en tête. Cela dit, elle était donnée au début de la campagne plus encore en tête, c'est-à-dire autour de 33%. Finalement, le score de 28,5% n'est pas si élevé par rapport à ce que la CDU pouvait espérer en début de campagne. Cela dit, le mandat est clair. C'est Friedrich Merz qui a un mandat pour former un gouvernement et qui devrait donc être sans surprise le prochain chancelier.
Alors, autre fait notable, le SPD, le parti d'Olaf Scholz, qui sort vraiment défait de cette élection. Est-ce que cette défaite est à attribuer à l'homme ou c'est un vrai ras-le-bol des Allemands quant aux politiques mises en place dans les dernières années ?
En fait, c'est un effet assez classique de retour de bâton contre les sortants. C'est ce qu'on voit dans beaucoup de cas et c'est ce qu'on voit aussi... par exemple, qu'on a vu aux États-Unis. Et donc, c'est assez difficile en général pour ceux qui exercent le pouvoir. On parle de coût du pouvoir, de cost of ruling en anglais, pour désigner le fait que les personnes qui sont au pouvoir sont jugées responsables de tout ce qui déplaît. Et en ce moment, c'est vrai que le contexte est particulièrement difficile. Peut-être qu'on pourra y revenir. Mais il y a une conjonction de plusieurs crises. Et dans ce contexte, c'est assez classique qu'on attribue le blâme aux sortants. Cela dit, il y a des facteurs plus spécifiques là, à la coalition sortante. C'était une coalition à trois partis qui n'étaient pas forcément faits pour s'entendre parce qu'autant les sociodémocrates et les écologistes ont une vraie affinité, ont déjà gouverné ensemble, autant les libéraux préfèrent gouverner avec la droite. Et donc, les disputes sont allées croissantes et on reproche à Olaf Scholz de ne pas avoir réussi à gérer sa coalition et de ne pas avoir réussi à régler les disputes. Les disputes étaient quasiment quotidiennes et s'étalaient dans les médias. Ça a beaucoup alimenté les ressentiments et l'impression que le gouvernement ne réglait pas les problèmes.
Alors, autre fait notable de cette élection, quand même, les médias l'ont beaucoup remarqué, c'est le score de l'extrême droite, qui serait presque le deuxième parti allemand en termes de suffrage. Comment on explique ça ? Vous avez commencé à l'expliquer en disant que l'Allemagne traversait plusieurs crises. Est-ce que c'est un véritable plébiscite outre-Rhin pour l'extrême droite ou on doit le comprendre justement dans ce contexte de crise ?
Mais c'est un peu la conjonction des deux. Donc vous avez raison de le souligner. Donc c'est le deuxième parti largement loin devant les sociaux-démocrates. Ils atteignent 21%. Donc ça c'est même plutôt encore au-dessus de ce dont ils étaient crédités au début de la campagne. Ce qui montre qu'ils sont à peu près les seuls partis. Ils sont pas les seuls, mais un des principaux partis qui ont réussi à gagner des voix pendant la campagne. Et ils doublent leur score en moins de 4 ans, ce qui est vraiment impressionnant. Donc, c'est vraiment une dynamique très forte. Et donc, il n'y a pas qu'un seul facteur, mais il y a une conjonction d'adhésion aux idées de l'AFD, mais aussi de vote protestataire. Donc, ça, c'est ce qu'on voit aussi dans d'autres pays, comme en France, par exemple. Donc en faveur de l'AFD qui a réussi à plusieurs reprises quand le pays a traversé des crises comme la crise des migrants, la crise avant budgétaire au début des années 2010, ensuite la crise sanitaire, c'est-à-dire que pendant le Covid, c'était à peu près le seul parti qui s'est posé en opposant aux mesures autour du Covid. Et plus récemment, sur les questions d'immigration, à chaque fois, c'est un parti qui s'est posé comme seule alternative. Et c'est vrai que dans le système allemand qui joue beaucoup sur le compromis et où on a beaucoup de partis qui peuvent, dans différentes combinaisons, exercer le pouvoir ensemble, l'AfD a beau jeu de se présenter comme une vraie alternative.
Et donc, vous l'avez dit, c'est vraiment la politique migratoire, on savait, qui était au cœur de cette campagne-là et qui explique en partie, en tout cas, l'opinion publique, enfin le suffrage d'aujourd'hui. Et donc, Friedrich Merz, il a donc l'intention aujourd'hui de détricoter ces politiques-là pour faire plaisir, entre guillemets, à ses électeurs.
Donc ça, c'est à voir. En tout cas, pendant la campagne, ça a été sa stratégie donc c'était une stratégie aussi qui a eu lieu dans un contexte où il y a eu plusieurs attaques qui pouvaient avoir des motivations ou des logiques différentes. Certaines étaient des attaques terroristes, d'autres, une était une attaque au couteau perpétrée par un réfugié afghan, mais qui était déséquilibré, qui n'était pas terroriste. Mais cette succession d'attaques, ça a créé une forte émotion en Allemagne, et la réaction de Friedrich Merz a été de dire que lui allait enfin prendre en main la situation du pays, ce qu'il appelle l'état d'urgence en matière d'immigration, et restreindre fortement l'immigration et le droit d'asile. Donc c'est le signal qu'il a envoyé. Donc certains ont pu estimer que c'était une stratégie pour essayer de reconquérir les voix qui étaient parties à l'extrême droite. Nous, en sciences politiques, on sait que cette stratégie ne fonctionne pas. À chaque fois que les partis établis ou se laissent entraîner sur les terrains de prédilection des concurrents contestataires, ça profite aux concurrents contestataires et ça profite pas aux partis établis. Et là, c'est ce qu'on a vu. Friedrich Merz a perdu 4-5% pendant la campagne. L'AfD, elle, a prospéré, et c'est ce qu'on a vu encore une fois. Toute la question va être de savoir quelle leçon il va tirer de cette campagne qui, je pense, ça s'est pas trop vu parce que les partis ont tendance à ne pas afficher leur division pendant les campagnes. Mais on sait que cette politique a été contestée de l'intérieur. Donc, elle l'a été ouvertement par Angela Merkel, par exemple. Donc, toute la question, ça va être de savoir quelles leçons vont être tirées par Friedrich Merz. Est-ce qu'il va continuer à politiser cet enjeu? Est-ce qu'il trouvera un terrain d'entente avec ses futurs partenaires de coalition? Et est-ce que son parti le suivra?
Et il a d'ores et déjà tout de même déclaré que l'AfD ne ferait pas partie de ses options de coalition. Donc, quelle sera la prochaine étape pour lui? Comment est-ce qu'il va réussir à réunir les partis pour former une coalition qui serait potentiellement plus solide que celle qui est tombée avec Olaf Scholz?
Et c'est toute la question. C'est un problème qui se pose en Allemagne comme dans beaucoup d'autres pays. C'est-à-dire que on a une conjonction d'un mouvement de fragmentation où on a de plus en plus de partis et des partis plus polarisés. Et là encore, on le voit parce que un autre parti qui a bénéficié lors de cette élection, c'est le parti Die Linke à gauche. Et il y avait d'autres partis qui auraient pu rentrer, mais qui sont pas rentrés au Bundestag. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est de plus en plus difficile de trouver des majorités, des coalitions majoritaires au centre, c'est-à-dire en excluant ces partis protestataires. Et dans ce contexte-là, il y a une politique en Allemagne de cordon sanitaire, donc en allemand on dit Brandmauer, le mur pare-feu, qui consiste à exclure systématiquement les partis d'extrême droite des discussions de coalition. Et ça, c'est quelque chose auquel tiennent. Vous parliez tout à l'heure de est-ce qu'il y a un plébiscite? Non, il n'y a pas de plébiscite pour l'extrême droite. L'extrême droite est devenue beaucoup plus forte. Mais en face, on a des personnes qui manifestent tous les week-ends en opposition à l'entrée de l'extrême droite au gouvernement et à la main tendue de Friedrich Merz. Donc, il n'a pas tendu la main pour former une coalition, mais il a quand même tendu la main en adoptant exactement les mêmes positions en matière d'asile et d'immigration et en prenant le parti de mêler les voix des chrétiens démocrates et de l'extrême droite sur certaines propositions de loi. Et en réaction à ça, il y a eu des fortes manifestations. Et Friedrich Merz a été contraint de répéter, je pense que je l'ai entendu au moins 100 fois répéter pendant la campagne, qu'il ne gouvernerait pas avec l'AfD. Donc ça, c'était pour rassurer son électorat qui serait choqué d'une alliance avec l'extrême droite. Donc pour l'instant, le cordon sanitaire tient. Le scénario le plus probable, étant donné que les Verts ne sont pas arrivés assez haut pour pouvoir former une coalition majoritaire avec la CDU, c'est qu'on retrouve une grande coalition du même type que ce qu'on avait sous Angela Merkel, par exemple, en 2013 et en 2017. Donc, une coalition chrétien-démocrate, sociodémocrate.
Donc, pas vraiment beaucoup de changements, plutôt une continuité, alors, quelque part.
Et beaucoup de changements, c'est pas quelque chose qu'on connaît dans la logique allemande. En fait, on a un mode de scrutin proportionnel qui ne favorise pas les changements à 180 degrés. C'est-à-dire que c'est très difficile dans ce genre de régime de renouveler entièrement le gouvernement. Cela dit, le gouvernement va peser plus vers la droite que jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, on avait les Verts et le SPD qui étaient ancrés à gauche, et le FDP qui les tirait un petit peu plus vers le centre, surtout économiquement. Donc c'est ça qui a provoqué le blocage. Maintenant, on va avoir une CDU nettement plus importante en termes de sièges et un partenaire social-démocrate qui va peut-être un peu modérer les positions de la CDU. Après, toute la question, ça va être de savoir sur quel programme ils vont s'entendre. Et ça, je pense que les négociations ne vont pas être faciles. Friedrich Merz a annoncé une formation de gouvernement rapide. Donc, c'est urgent parce qu'on est en pleine crise internationale et c'est très embêtant pour l'Allemagne de ne pas être... Ils ne peuvent absolument pas se positionner parce qu'ils ne savent pas qui gouvernera. En même temps, je pense que les discussions vont être loin d'être évidentes parce que quand on regarde les programmes des deux parties, on voit très peu de dénominateurs communs.
Eh bien, Isabelle Guinaudot, on suivra ce dossier en tout cas. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chercheuse au CNRS, au Centre Marc Bloch à Berlin. Merci beaucoup et peut-être à bientôt.
Merci pour l'invitation.